le magazine des Nations Unies.
Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro du magazine des Nations Unies. Les casques bleus de la MONUSCO étaient effectivement engagés aux côtés des FARDC contre l'offensive du M23 pour l'occupation de Goma. Le représentant spécial du secrétaire général l'a affirmé mercredi dernier à Kinshasa. Roger Miss coupe ainsi court aux rumeurs selon lesquelles la MONUSCO n'aurait rien fait pour empêcher la prise de Goma. De plus, le gouvernement de la RDC n'est plus sous embargo des armes de la communauté internationale depuis 2008. Les détails, tout à l'heure avec le porte-parole de la MONUSCO dans l'actualité de la semaine. L'objectif du millénaire pour le développement relatif à la lutte contre le VIH-Sida est clair, mettre fin à l'épidémie et inverser la tendance d'ici à 2015. Propos du secrétaire général de l'ONU dans son message à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le Sida, célébrée le 1er décembre. Dans cette émission, le docteur Mamadou Chako de l'ONU Sida RDC est notre invité. Il nous fera le point de la lutte contre cette pandémie dans le monde en général et en RDC en particulier. Enfin, dans Décryptage, Jean-Pierre Elali, Coco, vous recevez?
Nous recevons Ernest Bamou, il est économiste principal au PNUD. Vous savez, Mila, que la RDC fait partie des 48 pays moins avancés dans le monde. Et le pays fait un effort pour sortir de ses carcans. C'est ainsi qu'un plan national a été validé récemment à Kinshasa. Objectif, mettre en œuvre le programme d'action d'Istanbul en faveur de pays moins avancés pour la décennie 2011-2020. Qu'est-ce qu'est le programme d'action d'Istanbul? Qu'entend-on par les pays moins avancés? Ces concepts et bien d'autres seront décortiqués au courant de l'entretien de tout à l'heure.
À tout à l'heure, Jean-Pierre.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Face à face, Roger Miss presse mercredi dernier à Kinshasa. Le chef de la MONUSCO a coupé court à une certaine opinion distillée dans la presse, selon laquelle les casques bleus n'auraient rien fait pour défendre la ville de Goma des rebelles du M23. Nous étions très engagés aux côtés des FARDC pour combattre l'offensive de M23, surtout vers Kibumba et Kibati, a rétorqué Roger Miss. Écoutez à ce sujet les propos du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, recueillis par Jean-Pierre Elali Coco.
Je voudrais dire que effectivement plusieurs articles que j'ai vus de la presse ont parlé que la MONUSCO vient donner l'impression que la MONUSCO était un sorte de témoin passif à l'entrée à Goma, qui est effectivement très contrairement à la vérité de la situation. Effectivement, nous étions très engagés pour essayer à combattre l'offensive de l'inflatoire en collaboration avec les forces de la FARDC, surtout vers Kibumba et Kibati, des points défensifs établis par un plan conjoint de la défense de Goma pendant l'offensive. Bien entendu, au moment ou au point que les troupes de M23 sont arrivées à la porte de Goma, c'est-à-dire dans la ville Comtel, nous avons pris la décision de ne pas faire de combat contre elle dans la ville. Et même, je voudrais dire qu'il aurait été irresponsable de lancer des combats dans la ville avec les dégâts inévitables, humains ainsi que matériels, qui est lié avec un combat dans la ville. Et bien entendu, à ce point, sans avoir même une présence de la FARDC. Donc je crois peut-être que c'est à ce point la décision de ne pas combattre militairement le M23 dans la ville et qui a donné ces rapports de la presse. Mais encore, ça ne donne pas une appréciation correcte de la situation et toutes les activités. Tout d'abord, avec même l'arrivée du M23 dans la ville de Goma, que nous continuons des activités et qui continuent même jusqu'au présent. Nous avons plus ou moins, un peu moins effectivement, de 1600 troupes militaires dans la ville de Goma et nous avons insisté de contrôler l'aéroport. Nous avons insisté aussi avec le M23 notre droit de continuer des patrouilles de nos militaires et nos personnels dans la ville dans une période de 24 heures, nous avons assuré plus ou moins un chiffre de 84 patries.
Restons dans le même chapitre pour parler de l'embargo ou non de la vente d'armes en RDC. La question est revenue au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies. Le porte-parole de la MONUSCO a répondu « document à l'appui ». Manoj Mounouba a été catégorique. C'est depuis 2008 que cet embargo a été levé. Ses propos ont été recueillis par Honoré Missinga.
Concernant l'embargo sur les armes à destination de la République démocratique du Congo, l'embargo avait été décidé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. L'embargo a été levé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. L'embargo a été décidé en 2003. L'embargo a été levé en 2008. Le document est là. Nous allons quand même vous le distribuer afin que vous le lisiez et que vous compreniez. Ce pays n'est pas sous embargo des Nations Unies. Oui, il y a un embargo sur les armes à destination de la République démocratique du Congo. Cela ne concerne que les groupes armés, pas le gouvernement de la République démocratique du Congo. Nous avons vu des armes défiler ici, sur le boulevard, à l'occasion du cinquantenaire. Que je sache, on ne fabrique pas des armes en République démocratique du Congo. On ne fabrique pas des chars en République démocratique du Congo. Ces armes ont été achetées quelque part. Donc, il n'y a pas d'embargo sur les armes à destination de la RDC. En ce qui concerne le gouvernement, quand vous aurez lu ce document, ce débat sera clos une bonne fois pour toutes.
Plusieurs autres questions ont été abordées, toujours en rapport avec la situation au Nord Kivu. L'objectif du millénaire pour le développement relatif à la lutte contre le VIH-Sida est clair, mettre fin à l'épidémie et inverser la tendance d'ici à 2015. Propos du secrétaire général de l'ONU dans son message à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le Sida, célébrée le 1er décembre. Écoutez à ce sujet les propos du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, recueilli par Jean-Pierre Elali Coco.
C'est un plaisir pour moi de vous transmettre le message du secrétaire général des Nations Unies à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida. L'objectif du millénaire pour le développement relatif à la lutte contre le VIH-Sida est clair, mettre fin à l'épidémie et inverser la tendance d'ici à 2015. Grâce aux efforts résolus des gouvernements et de la société civile, le succès est en vue. Le rapport de 2012 de la Journée mondiale de lutte contre le sida, établi par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH-Sida, montre que des progrès réels ont été enregistrés ces deux dernières années dans la prévention et le traitement de VIH-Sida. Le nombre de personnes ayant accès à un traitement qui peut sauver leur vie a augmenté de 60 personnes et le nombre de nouvelles infections a été réduit de 50 personnes dans 25 pays, dont 13 en Afrique subsaharienne. Le nombre de décès liés au sida a chuté d'un tiers depuis 2005. La moitié de la diminution mondiale des nouvelles infections à VIH ces deux dernières années a été enregistrée chez les nouveaux-nés. J'exhorte les États membres à redoubler d'efforts pour éliminer la transmission de VIH de la mère à l'enfant et ouvrir pour s'assurer que tous les mères séropositives puissent survivre et s'épanouir. J'appelle à de plus grands efforts visant à éliminer la stigmatisation et la discrimination qui aggrave les risques dans les populations vulnérables. Le rapport de la Commission mondiale sur le VIH et le droit, risque, droit et santé souligne combien des législations dépassées, des systèmes judiciaires peu judicieux et des pratiques policières punitives, fondées non pas sur la science, mais sur la peur et les préjugés, alimentent l'épidémie. Il faut mettre à la portée de tous informations, tests de dépistage et traitements, afin que chaque homme, chaque femme et chaque enfant puisse exercer son droit fondamental aux soins médicaux et aux services essentiels qui mettront fin à cette épidémie dévastatrice. L'objectif zéro nouvelle infection, zéro discrimination et zéro décès lié au sida d'ici à 2015 peut être atteint. En cette journée mondiale de lutte contre le sida, nous devons nous engager à faire fond sur les victoires encourageantes de ces dernières années et à les amplifier de façon à reléguer le VIH-sida au bas-fond du passé. Je vous remercie.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Objectif zéro, c'est le thème de la journée mondiale de lutte contre le sida. Cette journée est célébrée le 1er décembre de chaque année depuis plus de 20 ans maintenant. Nous recevons dans ce magazine le docteur Mamadou Chako, coordonnateur pays de l'ONU SIDA RDC. Il explique le thème de cette année. Il fait aussi l'état de lieu de la lutte contre le VIH-SIDA dans le monde et en République démocratique du Congo. Suivez-le dans cet entretien avec Honoré Missenga Kalala.
Docteur Mamadou Chako, bonjour.
Bonjour.
Le monde consacre le 1er décembre à la lutte contre le sida. Cette année, comme l'année dernière, la journée est placée sous le thème Objectif zéro. Comment, docteur, on peut comprendre cet objectif?
Cet objectif s'inscrit dans la continuité de la stratégie du système des Nations Unies pour faire face à cette épidémie. Sous le triple zéro, c'est-à-dire zéro nouvelle infection, zéro discrimination, zéro décès lié au VIH. D'ici 2015, nous nous engageons à réduire l'épidémie du VIH-Sida, satisfaire l'accès aux antirétroviraux en améliorant la disponibilité de ces antirétroviraux, donc réduire la mortalité et augmenter la vie chez les personnes qui vivent l'épidémie, réduire la stigmatisation et la discrimination pour essayer de promouvoir le dépistage du virus et la fréquentation des services de dépistage et d'accès aux antirétroviraux.
Objectif zéro d'ici 2015, mais quel est l'état de lieu actuel dans la lutte contre le sida dans le monde et en RDC?
L'état de lieu, c'est que nous sommes absolument sur la bonne voie. De belles nouvelles sont dessinées en termes de réduction des nouvelles infections. Dans 25 pays, nous avons réduit déjà de 50% ces nouvelles infections. Nous avons également beaucoup progressé en termes de disponibilité des antirétroviraux. Nous avons couvert au maximum 8 millions de personnes dans le monde, c'est-à-dire plus de la moitié des gens qui en ont besoin d'ici 2015.
On peut avoir une idée sur le nombre de personnes vivant avec le VIH à travers le monde et en RDC. En 2011, on a parlé des 34 millions de malades.
Oui, effectivement, il y a 34 millions de malades qui sont vivants avec le VIH selon nos statistiques de chiffres cumulés. Il y a 1 million qui sont nouvellement infectés, mais comparé aux années passées, ce taux est en train d'être baissé et stabilisé. Il y a 1,7 qui sont décédés au plan mondial. Cependant, au niveau de la RDC, comme vous le remarquez, la RDC est caractérisée par une épidémie généralisée. Ce n'est pas une épidémie concentrée ou faible. C'est une épidémie qui couvre tout le pays. Les prévalences sont au-delà de 3,5% et en population générale, 1,5% parfois, selon l'EDS. Cependant, les populations à risque sont très infectées à des taux beaucoup plus importants, allant jusqu'à 20% chez les homosexuels ou allant jusqu'à 16% chez les prostituées. La province orientale, nous sommes à 5,6% chez les femmes enceintes. Dans la province de Katanga, nous sommes à 5%. À Matadi, 5%. Donc, il y a des provinces où c'est un peu plus élevé en termes de considération régionale.
À ce propos, docteur, le directeur général du Fonds mondial a déclaré en juillet dernier à Washington, lors de la 19e conférence mondiale sur le sida, que la RDC était devenue une priorité dans la lutte contre la pandémie. Est-ce que des moyens conséquents ont-ils été mobilisés à cet effet depuis?
Je pense qu'il faut reconnaître d'abord que les pouvoirs publics, particulièrement les autorités de la RDC, ont fait des efforts extrêmement louables en termes de renforcement des ressources financières en augmentant de façon graduelle leur contribution dans la lutte contre le VIH-Sida. Ils sont à environ au-delà de 5, 6, 7, 8% même de contribution dans le budget par rapport aux budgets antérieurs, soit 3 millions de dollars sont planifiés pour 2013-2017 pour soutenir la lutte contre le sida de la part des autorités gouvernementales. Mais les partenaires également, parce qu'il y a le Fonds mondial qui fait un excellent travail, il y a le PEPFAR, il y a le système des Nations Unies. Donc, la coalition mondiale a essayé de renforcer son soutien par rapport à la lutte contre le VIH-SIDA en DRC.
Docteur, quels sont d'après vous les grands obstacles à la lutte contre le SIDA en RDC?
Un des grands obstacles également que nous devons reconnaître, c'est le fait de maintenir l'appropriation et l'agenda politique de la lutte contre le SIDA. C'est en danger parfois et ça se comprend. Et pour nous, cet agenda politique est fondamental. Également, le fait de motiver davantage le personnel de santé. Il y a également ce déficit de pérennisation. Si nous soutenons la lutte contre le SIDA à travers des bailleurs de fonds, jusqu'à 95% des ressources viennent de l'aide extérieure, qui va garantir la durabilité à long terme? C'est quelque chose qu'il faut voir. Il y a également le fait que les femmes enceintes, qui sont très bien, un taux de consultation prénatale assez intéressant, jusqu'à 80%, ne soient pas candidate au dépistage de façon systématique. Le dépistage de VIH doit être systématique chez toute femme enceinte. Nous devons surtout cadrer le financement de la lutte contre le SIDA, ce qui est loin du cas. Donc pour cela, il y aura des grands moments de plaidoyer centrés sur l'élimination mère-enfant qui seront organisés. Mais également, au niveau de chaque agence des Nations Unies en fonction de leur mandat, il y aura beaucoup d'interventions. Et tout ce travail est fait en relation parfaite avec la MONUSCO, auquel je salue vraiment sa bravure et sa détermination et son engagement dans la lutte contre le SIDA et dans la communication.
Docteur Mamadou Sakho, merci.
Près de 6 millions d'enfants de 0 à 5 ans des 4 provinces de la RDC ont été ciblés par une campagne de vaccination contre la poliomyélite. Elle a été organisée du 27 au 29 novembre dernier dans les provinces du Katanga, du Maniema, de l'Équateur et de la province orientale. Nous devons unir nos efforts afin d'éradiquer la poliomyélite, une maladie contagieuse terrible mais évitable par la vaccination, a rappelé Barbara Bentayne, représentante de l'UNICEF en RDC. La RDC vient d'être dotée d'une stratégie nationale cadre pour la réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts. Le RED Plus a pour objectif de récompenser financièrement les pays qui contribuent à l'atténuation du changement climatique en réduisant la déforestation et la dégradation de leurs forêts. Dans sa stratégie, la RDC est appuyée notamment par le PNUD et la Banque mondiale. Le programme alimentaire mondial a renforcé sa présence à Bunia en province orientale et à Goma dans le Nord Kivu pour faire face à la crise humanitaire qui secoue la région depuis le 15 novembre dernier avec la reprise des affrontements entre le M23 et les FARDC. Depuis le 16 novembre, le PAM distribue des rations alimentaires à plus de 81 000 déplacés répartis dans 12 sites au centre et autour de Goma.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Des experts congolais appuyés par le PNUD ont validé le rapport national de mise en œuvre du programme d'action d'Istanbul la semaine dernière, un rapport en faveur des pays moins avancés pour la nouvelle décennie 2011-2020. Que retenir du programme d'action d'Istanbul? Qu'entend-on par pays les moins avancés? Des concepts que décortique pour vous Ernest Bamou, économiste principal du PNUD RDC, dans un entretien avec Jean-Pierre Elali Coco. Cet expert jette aussi un regard sur les résultats du rapport national ainsi que sur l'implication du PNUD dans sa matérialisation.
Ernest Bamou, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Vous êtes économiste principal ici au PNUD. Des experts congolais ont validé la semaine dernière le rapport national de mise en œuvre du programme d'action d'Istanbul. Ernest Bamou, programme d'Istanbul, c'est quoi d'abord?
Le programme d'Istanbul pour la décennie 2011-2020, qui fait suite à celui de Bruxelles pour la décennie 2001-2010, est une série de mesures ou de soutien que la communauté internationale met en place pour améliorer sensiblement les conditions de vie des millions de populations qui vivent dans les pays les moins avancés à travers un partenariat mondial renforcé visant, d'une part, à obtenir plus rapidement une croissance économique soutenue et un développement durable, et d'autre part, à mettre un terme à leur marginalisation par l'élimination de la pauvreté, l'élimination des inégalités et de la misère, et à leur permettre de s'insérer avec profit dans l'économie mondiale.
Et qu'est-ce que c'est un pays moins avancé? C'est par rapport à quoi?
L'expression pays moins avancés, que l'on abrège généralement par PMEA, désigne une catégorie de pays créée en 1971 par l'Organisation des Nations Unies. Ce groupe de pays-là regroupe les pays les moins développés socialement et économiquement de la planète. Ce groupe de pays présente des indices de développement humain les plus faibles et devrait à ce titre obtenir une attention particulière de la part de la communauté internationale.
Quels sont les critères pour déterminer un pays comme étant moins avancé?
C'est depuis 2003 que le Conseil économique et social des Nations Unies a retenu trois critères pour déterminer un pays, qu'un pays peut être considéré comme pays moins avancé. Ces critères sont notamment le revenu par habitant qui doit être inférieur à $900, le retard dans le développement humain mesuré en tenant compte de la malnutrition, du taux de mortalité des enfants, de la scolarisation et du taux d'analphabétisation. Et le troisième critère est la vulnérabilité économique.
Ernest Bamou, revenons à l'atelier qui s'est tenu, c'était la semaine dernière. Parmi les cinq domaines prioritaires, il y a la bonne gouvernance. Et curieusement, la bonne gouvernance est justement l'une des priorités du PNUD en RDC. Comment alors votre organisation, le PNUD, pourra-t-il axer sa coopération avec les pays dans la mise en œuvre du rapport national?
En effet, la bonne gouvernance est l'une des priorités du PNUD. C'est pourquoi d'ailleurs, elle continue d'occuper une place de choix dans le nouveau cycle de programme pluriannuel de PNUD, celui que nous allons mettre en œuvre de 2013 à 2017 et qui est en cours d'approbation. À ce titre, le PNUD est de concert avec le gouvernement et les autres parties prenantes comme la société civile, se propose de poursuivre les actions engagées dans son précédent cycle programmatique qui s'achève en décembre 2012 prochain. Il s'agira notamment dans son axe prioritaire consolidation de la paix et renforcement de la démocratie, d'un appui multiforme aux institutions parlementaires, administratives et financières, judiciaires et sécuritaires, y compris au cycle électoral, tant au niveau central que local.
L'une des faiblesses qu'on déplore en RDC, c'est le manque de suivi et d'évaluation des projets. Est-ce que vous êtes optimiste quant à la réalisation de ces rapports qui a été élaboré?
L'engouement des participants à élaborer le rapport dont il est question ici et les fermes volontés du gouvernement sont des signes évidents qui ne peuvent qu'inspirer de l'optimisme dans la matérialisation de ce rapport. Toutefois, il faut reconnaître que de multiples entraves et défis pavent le chemin de cette matérialisation et doivent impérativement être levés pour y parvenir.
Et quels sont ces obstacles?
Au nombre de ces défis et obstacles, Jean-Pierre, il y a la situation sécuritaire à l'est du pays, avec le risque de dégénérescence que cela comporte, et le courage des décideurs politiques à poursuivre les réformes qui sont engagées en dépit des fortes résistances que les nombreux détenteurs de rentes de situation vont leur opposer.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ces rentes de situation
c'est? C'est vrai que comme nous parlons à une large communauté nationale, il est bon peut-être de définir ces termes qui sont essentiellement techniques. On appelle tout simplement rentes de situation les gens qui bénéficient de la situation actuelle. Parce que généralement, tout le monde n'est pas perdant là où il y a le désordre. De même que tout le monde n'est pas gagnant là où il y a l'ordre. Donc ceux qui tirent profit de la situation qui prévaut, on les considère comme ceux qui bénéficient des rentes de situation.
Donc là, nous sommes dans une situation un peu de désordre, si vous voulez bien.
Ça, je ne sais pas caractériser comme ça. Chaque pays, à un moment donné, a la situation qui est la sienne à ce moment-là et a les hommes qui les dirigent aussi en ce moment-là. Des efforts sont en train d'être faits et je ne crois pas que la RDC soit le pays le moins loti aujourd'hui que la plupart des autres pays de cette terre.
Nous tendons vers la fin de notre entretien, Monsieur Ernest Bamou. Il y a des domaines tels que l'énergie, la promotion du droit social ou encore la mobilisation des ressources financières pour le développement qui ont été évoqués lors de cet atelier. Quelle pourra être alors l'implication du PNUD dans les 10 prochaines années en RDC?
Comme vous le savez bien, Le PNUD a toujours été aux côtés de la RDC en ce qui concerne l'appui à son développement. Le PNUD donc poursuivra sa stratégie de partenariat guidée par l'ouverture qui est créée par le nouveau processus qu'on appelle le New Deal, les nouveaux engagements en français, pour développer des opportunités de coopération sud-sud et des partenariats avec des entreprises socialement responsables en matière d'emploi et de la gestion des ressources naturelles, tout en veillant à assurer une sensibilisation et une communication efficace axée sur les résultats.
Monsieur Ernest Bamou, je vous remercie.
Je vous remercie beaucoup.
À Bounia, dans la province orientale, les portes des bureaux de certaines agences du système des Nations Unies se sont rouvertes le mardi. Les bureaux d'autres agences restent encore fermés, cela après des agitations populaires qui ont affecté le chef-lieu de l'Ituri la semaine dernière suite à la chute de Goma entre les mains des rebelles du M23. Au cours de ces événements, des manifestants avaient cassé et pillé des biens dans des bureaux ainsi que dans des résidences des fonctionnaires expatriés du système des Nations Unies. Les détails avec Jean-Paul Bassi.
À Bounia, le porte du bureau des coordinations des affaires humanitaires des Nations Unies au Tchad reste fermé. Seules des sentinelles sont présentes dans l'enclos. Tous les autres agents ont été renvoyés à la maison pour Médard Lobota, chargé des communications au bureau d'Otcha à Kinshasa. Cette mesure ne doit pas être confondue à un congé technique.
Nous nous sommes retrouvés dans l'impossibilité de travailler étant donné la situation sécuritaire et puis étant donné les dégâts qui ont été causés à nos bureaux. Et dans ces conditions-là, on ne peut pas demander au staff d'aller se retrouver dans un lieu comme ça pour faire quoi que ce soit. Le congé technique suppose suspension temporaire du contrat. Aucun staff de Otcha à Bounia n'a vu son contrat suspendu puisque nos bureaux ont été vandalisés. Pour des raisons sécuritaires, on a demandé au staff de rester chez eux, mais de continuer à travailler.
Au bureau du Programme alimentaire mondial et du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, le travail n'a repris que ce mardi aux environs des 10 heures. Particulièrement au HCR, un responsable reconnaît que deux de ses collègues, personnels non essentiels, ont été relocalisés à Kampala, en Ouganda. Tandis qu'au bureau de l'ONG des droits italiens Chesvi, tous les 4 fonctionnaires expatriés se sont retirés momentanément à Kampala, en Ouganda. Seuls des employés congolais sont présents au bureau à Bounia depuis lundi. Ils disent travailler à guichets fermés pour assurer les services minimums en attendant de nouvelles instructions de leur hiérarchie. Bounia, Jean-Paul Bassila, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Oui, mon nom est Oumar Sela, donc je suis marié et père de 2 filles. J'ai fait ma formation universitaire au Sénégal et plus particulièrement à l'université Gaston Berger de Saint-Louis jusqu'à la maîtrise en droit public, en droit orienté plutôt vers le développement local et la décentralisation. Ensuite, j'ai fait un 3e cycle en France à l'université de la Sorbonne pour avoir un DIA en études africaines, toujours orienté vers le droit, mais plutôt les droits africains. J'ai fait aussi à Paris 12 un master en project management. Au sein de UN Habitat, je m'occupe de tout ce qui est programmation, ce qu'on appelle le conseiller technique principal, en même temps chef de bureau. J'ai commencé à travailler avec les Nations Unies depuis 2009 à partir de Goma. Je m'occupe de la mise en œuvre, de la conception de ce que nous appelons le programme foncier au sein de UN Habitat. Un programme qui appuie depuis 2009 les efforts du gouvernement congolais en matière de stabilisation et maintenant le gouvernement central pour la mise en place d'un processus de réforme foncière. Mes tâches quotidiennes sont nombreuses. C'est le management du bureau, c'est la conception des programmes, c'est la mise en œuvre des programmes, c'est le suivi des programmes, mais aussi c'est le contact avec les autres partenaires, que ce soit au sein de la RDC ou en dehors de la RDC. Mais aussi c'est de représenter UN Habitat au sein de UN City. Avant de travailler avec UN Habitat, j'ai travaillé avec l'Union Européenne en post-conflit, plus particulièrement à Djouba, au sud du Soudan, pendant 2 ans et demi. Avant ça aussi, j'ai fait beaucoup de consultances pour certaines structures, notamment le PNUD, des institutions britanniques qui s'occupent de la question foncière et de l'environnement. Mais aussi, j'ai passé 4 ans de ma vie au laboratoire d'anthropologie juridique de Paris en tant que chercheur, qui a beaucoup ouvert mon horizon plus vers l'Afrique et en ce qui concerne la problématique foncière sur laquelle je m'investis aujourd'hui. Comment gérer mon temps libre? Une question délicate, nous qui sommes à l'Est. Je pense qu'on ne voit même pas les week-ends passer. Donc nous passons tout notre temps samedi ou dimanche au bureau, mais quand même nous nous efforçons à avoir du temps de lecture, du temps pour socialiser avec les autres amis des agences et des autres acteurs avec qui nous travaillons. Et c'est aller au restaurant manger, c'est jouer au badminton aussi. J'aime bien la musique et plus particulièrement maintenant la musique congolaise. J'aime bien Koffi Olomide maintenant. Et j'aime bien danser aussi les pas de Koffi Olomide. Le sport, je fais de jogging chaque matin pratiquement pour me réveiller, pour être en bonne forme. Mes projets d'avenir, j'ai un grand attachement maintenant à la problématique africaine. Et je pense que j'aimerais bien mieux contribuer à la recherche de solutions des problèmes auxquels les pays africains sont confrontés. Il y a le Soudan, il y a le Sénégal, nous sommes par exemple, il y a le Congo. C'est pour dire que mes perspectives d'avenir, c'est encore de m'efforcer à mieux comprendre la problématique sur laquelle je milite pour l'instant et de voir dans quelle mesure apporter aussi ma contribution à l'édifice de pacification, mais aussi de développement en Afrique.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Je m'appelle François Loubaki, je suis étudiant à l'INIKIN. J'adresse ma question à l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Que signifie flux migratoire? Quand peut-on parler de flux migratoire? Comment se forme un flux migratoire? Est-ce que le refoulement des Congolais d'Angola peut être considéré comme un flux migratoire? Merci.
Merci François Loubaki pour votre question. Nous avons contacté pour vous répondre Kawata Sefou. Il est administrateur des relations extérieures de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM.
Oui, en ce qui concerne la définition du concept de flux migratoire, il est souvent recommandé de décortiquer d'abord les différents concepts clés, les concepts opératoires qui forment ces concepts de flux migratoire. Généralement, lorsqu'on parle de flux, on entend les mouvements, soit des populations, soit des choses. Et dans ces cas d'espèce, je pense que c'est plutôt le mouvement des populations dont il est question. Pourquoi? Parce que le deuxième terme migratoire se rapporte exclusivement aux personnes. Donc, dans ces cas d'espèce, il s'agit bien des mouvements réguliers, des mouvements secrets de population au sein d'un pays, ça peut être au sein d'un pays, entre une localité et une autre localité ou d'autres localités, comme ça peut se faire de manière transnationale, c'est-à-dire en dépassant le frontière nationale. Lorsqu'on parle de flux migratoires, il s'agit donc des mouvements de population qui se font d'une localité à l'autre conformément à la configuration que je venais de donner. Et ces mouvements de population peuvent être soit de longue durée, soit momentanés. Et lorsque il s'agit des déplacements de longue durée, et c'est souvent lorsque des gens se décident de quitter une région pour une autre, pour des raisons évidemment qui sont les leurs. Et cela peut provenir de deux raisons fondamentales. Ce que nous appelons des conditions répulsives, de conditions répulsives qui envoient les gens, qui poussent les gens à sortir d'une localité à l'autre ou d'un pays à l'autre. Et les conditions répulsives donc ça peuvent être les mauvaises conditions de vie, les chômages, etc., etc., pour aller vers d'autres localités ou d'autres pays. Et ces pays qui exercent cette envie d'aller vers eux, et là-bas, on dira qu'il y a des conditions attractives. Et les deux se valent, parce que lorsqu'on sort d'un pays pour aller vers un autre, on parle bien d'émigration, émigration, j'ai dit bien. Et lorsque, pour les gens qui sont dans le pays qui a exercé cette attraction, on parle plutôt d'immigration. Donc, l'immigration, c'est l'entrée, et l'émigration, c'est la sortie. Pour répondre à la question de notre auditeur en ce qui concerne les réfugiés d'Angola, j'ai dit tout de suite qu'il s'agit bel et bien, et on peut les considérer également comme flux migratoires, pour la simple raison que ces réfugiés d'Angola, qu'elles retrouvent aux frontières, et par exemple avec la RDC, peuvent avoir soit été trouvés en situation de séjour irrégulier et qu'ils n'aient pas passé un long moment en Angola. Là, ça tombe dans le cadre de ce que j'ai dit dans la définition des flux migratoires, qu'il s'agit des mouvements momentanés, mais ils peuvent aussi être ces refoulés des gens qui sont restés pendant très longtemps en Angola et qui sont seulement attrapés ou, si vous voulez, trouvés en situation irrégulière il y a peu.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Une date à retenir, lundi 3 décembre 2012, poursuite des activités relatives à la journée mondiale de lutte contre le sida au sein du système des Nations Unies en RDC. Le rendez-vous est donc pris au siège du PNUD. Les staffs de la MONUSCO et des agences onusiennes y sont attendus de 14h à 15h50, notamment pour des conseils et un dépistage volontaire. C'est la fin de cette émission. Jean-Pierre Elali était à la coordination. Honoré Missenga au reportage. Sous la supervision de Nicole Ngaka, Mila Kimbini était à la présentation. La rediffusion de ce magazine aura lieu à 19h03 et vous pouvez le suivre à partir de notre site internet radiocapi.net. Laissez un commentaire ou au mieux, contactez-nous en appelant au 082 30 76 630. Rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro de magazine des Nations Unies. Excellent dimanche à tous.